Voilà, nous prenons la suite. On avait vu hier une Sheila dans le daf Ayin Alef Amud Bet. C'était Ibayalou, on va le lire rapidement au milieu de la page. Le sujet est soulevé. Girushin Kishtika Damia Okeaka Madamia. Le mari pouvait faire la Farat Nedarim de sa femme. Il a divorcé sans faire de hafara. C'est ce qu'on appelle shtika, silence. Est-ce que ceci... Pardon. Il n'a rien dit. Ni kiyum, ni hafara. Il a divorcé. C'est le jour où il a entendu le vœu. Il aurait pu faire hafara. Il n'a rien dit. Il divorce. Est-ce que ça vaut shtika? Ok, akama damia, ou bien ça ressemble à akama. Est-ce que ça s'appelle garder la neutralité? Ou bien le fait de savoir que c'est la dernière chance maintenant, tu divorces, tu n'as plus de mots à dire sur ce vœu, c'est que tu le valides. De manière tacite, tu valides le vœu. Tu l'as confirmé. Qu'en est-il? La Gemara demande, « Maïnaf kamina, qu'est-ce que ça a comme incidence pratique ?»« Kegon shenadra veshama bala vegircha veachare veahadra veahadra beyome. » Il l'a divorcé, mais il l'a réépousé le jour même. Et maintenant, la question, est-ce que... il a encore une chance ou c'est fini? Et à Marmar, Kishtika Dami, si le maître y tranche que c'est comme une shtika, Matsime Ferla, il pourra faire la fara. C'est toujours le même jour. Il est redevenu le harus. Et le harus, il est Mefer Bak Kodmim, comme on a toujours dit. Donc il pourra. Veille à Marmar, Kishtika Dami. Mais si on tranche que c'est comme Akama, l'homme Matsime Ferla, alors il pourra plus. Parce que c'est déjà validé. Dès que la Akama est faite, d'un côté ou de l'autre, que ce soit le père, que ce soit le gendre, c'est fini, il n'y a aucune chance de hafara. Donc voilà le doute, concrètement. Or, on aurait pu envisager un cas plus simple, sans que le gendre réépouse cette femme. Le père lui-même, on a vu que le père, on lui reconduit le reshout du fils, du gendre, ce qu'on appelle... le reshout, il est nitroken av. Ce pouvoir qu'avait le gendre est reconduit au père quand le gendre est hors jeu. Hors jeu parce qu'il a divorcé ou parce qu'il meurt. Et là, on pouvait se poser la question, est-ce qu'on peut appliquer le principe de nitrokna reshout la av ou non? Si le harus, par son divorce, c'est considéré comme une akama tacite, ah d'accord, et c'est trop tard maintenant. Le père ne pourra pas. Et si ce n'est pas comme une akama, il pourra. Ça aurait pu être une sheela, ça aurait pu être une nafkamina que la Gemara aurait pu présenter. Les rishonim répondent pourquoi. Ici dans le Rosh, il y a un élément de réponse. Pourquoi la Gemara n'a pas dit directement ce cas plus simple, mais elle a donné un cas un peu plus complexe. Il y a un intérêt particulier à voir dans le Rosh. Donc maintenant, on avait la question qui est posée. Et la Gemara s'engage dans les différents tashma pour essayer de trouver des preuves. Tashma, viens écoute, c'est là qu'on aborde maintenant le Ayin Bet Amud Alef en haut de la page. Viens écoute, et Matay Amru Metabal Nitrokna Reshut La'av. Quand est-ce que nos maîtres ont établi ce principe que quand le mari meurt, son pouvoir est reconduit au père? On parle bien sûr de Naram Orasa. Cette braïta, on l'avait vue plus haut d'Av Samechet. C'est uniquement en Bisman Shelosh Shama Baal. En bref, c'est uniquement si le Baal n'a pas fait de Kiyum à Neder. Parce que si lui l'a validé de son côté, le père ne pourra plus rien. Alors c'est quoi les cas où le Baal n'a pas fait de Kiyum? Shelosh Shama Baal, il n'a rien du tout entendu. Donc il n'a pas fait de Kiyum. Oh Shama VFR. Ou bien il a entendu, il a fait Afara. Et cet Afara, elle tombe à l'eau quand il meurt, parce que c'est une affaire partielle. Alors là, on reconduit son pouvoir au père. Parce qu'il n'y a pas d'opposition par la partie adverse. Le gendre n'a pas confirmé le vœu. Il n'a pas entravé au beau-père l'affaire. Oh, Shama Veshata, Koumet Bobayom. Troisième cas possible, il a pris le vœu. Il a gardé silence, il est mort. En pleine journée. Donc on n'est pas arrivé à la fin de la journée pour que le vœu soit validé. Donc voilà trois exemples de situations où le gendre n'a pas validé. C'est alors qu'on dit, quand il disparaît, c'est le père qui récupère ce pouvoir intégralement. Veyamrat Gerushin Kishtika Damu, si tu dis que Gerushin c'est comme Shtika, Litnenami, O Shama Vegiresh. Fallait aussi envisager ce cas, le gendre il a entendu. Au milieu de la journée, il a divorcé. Il a ni été Mekayem, ni été Mefer, mais si on considère que Gerushin c'est neutre, il n'a rien dit, il n'a pas dit je suis Mekayem. Alors, dans ce cas-là, la Braïta aurait dû mentionner. C'est encore un exemple de situation où le gendre était neutre. Pourquoi on ne l'a pas mentionné? Que dans ce cas-là aussi, on appliquera la règle que Nitroken Reshut La'av. Voilà un cas intéressant qu'on aurait pu classer avec les autres. Et Midelotane Achi, si le Tana ne l'a pas mentionné, et Shmamina Gerushin Ka'akam Adamu. Nous ferons le Diyuk, que justement, c'est parce qu'aux yeux du Tana, Gerushin Savo Akama. C'est pourquoi on ne pouvait pas le mentionner. Ce n'est pas la même chose que Shama Baal, Veshatak ou Met Bobayom. Non. Shama Veshatak Vegiresh Bobayom, ça s'appelle Hakama. Et du coup, le père ne peut plus rien. Donc on a un indice dans une braïta que ça vaut Hakama. Dit la Gemara et ma Seifa. Lis la suite de cette même braïta. La braïta poursuit en disant que si jamais du côté du Baal, il y avait Akama, c'est fichu pour le père. Comment elle trouve des exemples? Avalim shama vekiyem. Le gendre aurait entendu le vœu et il l'a validé. O shama vechata akumet bobayom shelacharam. Ou bien il a entendu le vœu. Il se tait et la journée est passée. On est arrivé aujourd'hui lendemain et c'est là où il meurt. Donc ça s'appelle en somme qu'il a été Mekayem. Dans un cas ou dans l'autre, le gendre a été Mekayem. C'est là où on dira qu'il n'y a aucune chance pour le père. Et n'y a chol les affaires. Le père ne pourra plus rien. Puisque du côté de la son partenaire, ça a été validé. Donc le père ne peut plus rien. Il n'y a pas Nitroken Reshut La'av. Bien. Et là, une fois la même déduction. Veyamrat Gerushin Ka'akam Adamu, si tu penses comme tu l'as imaginé à partir de la Recha, que Gerushin Savo Akama, alors le Tana aurait dû le mentionner dans la Seifa, parmi les exemples de Akama du mari, Litne, fallait enseigner le cas de Litne Nami, oh Shama Vegiresh, j'ai lu avec la version du Bar, fallait aussi enseigner le cas de oh Shama Vegiresh, et pourquoi tu l'as pas mentionné? Et la midelokatani, si on n'a pas et midelokatani achi, si c'est pas enseigné dans la seifa, shmamina gerushin kishtika damu. Donc en somme, on a des déductions contradictoires. Dans la recha, on n'a pas classé avec les cas de neutralité le cas qui est le nôtre de shama veshatak vegiresh ben bobayom ben tsayom. Tu l'as pas mentionné là-bas, c'est que c'est considéré kiyum pour le tana de la Mishnah, de la Breita. Et après, tu vois que, d'après ça, ça devrait être présent dans la Seifa, avec les exemples de Kiyum du gendre. On a présenté le cas Shama, c'est Kiyem. Ou bien, Shama Veshatak, mais il est mort le lendemain. C'est aussi Kiyum. Pourquoi t'as pas mis fait la place aussi au cas de Shama Vegiresh? Vem Tsayom, ça vaut Kiyum. Tu l'as pas mis là, ça veut dire que c'est pas un Kiyum, ça vaut Shtika. Donc le Tana a l'air en contradiction. Tantôt, il te laisse entendre blanc. Tantôt, il te laisse entendre noir. Contradiction. On appelle ça des mashmaouyot, des déductions qui sont sotorot, des résonances qui sont sotorot à adadi, contradictoires. Et là, mea le kalemash mamine. On doit conclure qu'on ne peut rien apprendre de cette Mishnah. De cette braïta, tu ne peux rien retenir. Parce que c'est sûr que Iresha Davka Nassiv Sefa Mishum. Pardon. Iresha davka nasiv sefa mishum resha. Vei sefa davka nasiv resha mishum sefa. Ça veut dire, si la resha c'est davka, c'est-à-dire que le fait que le cas de Girushin est absent, c'était bedavka, parce qu'aux yeux du Tana ça s'appelle kiyum. Alors du coup ce sujet avait sa place dans la sefa. Avec les situations où il y a eu Kiyum, pourquoi il a omis de la Sefa? Eh bien, Nassif Sefa Mishum Recha. Il a dressé la Sefa parallèlement à la Recha. Comme dans la Recha, c'est un cas qui est absent, alors dans la Sefa aussi, on l'a rendu absent, bien qu'il avait sa place dans la Sefa. Et si c'est le contraire, Inassi, Isseifadavka, si le Tana, c'est dans la Sefa que Bedavka, il n'a pas cité Gerushin, parce que ça ne colle pas, ça n'a pas sa place dans la Sefa. Parce qu'à ses yeux, Gerushin, Savoshtika, alors c'est pourquoi il ne l'a pas mis dans la Sefa, Bedavka, alors la Recha, il aurait pu le mettre, puisque c'est comme une Shtika. Nassiv Recha, Mishum Sefa. Il a dressé la Recha parallèlement à Sefa sans le sujet de Gerushin. C'est un peu délicat cet élément. On peut comprendre, et c'est courant, que quand il y a ce genre de situation qui a des déductions contradictoires entre une Recha et une Sefa d'un même texte, alors comment on sort ? On sort de là en disant on ne sait pas quoi trancher, on ne sait pas quoi entendre. Ça veut dire que le Tana, bien sûr que lui ne se contredit pas. Ou la Recha, les Davka et le Diouk est bon, et la Sefa, c'est la Davka, là-bas, il n'y a pas de Diouk à faire, ou le contraire. Nous, on ne sait pas quoi retenir, c'est tout. Et c'est ce qu'il faudra dérisser aussi. Sauf que la Gemara, elle veut justifier pourquoi le Tana ne l'a pas mentionné au moins là où il a sa place. S'il n'a pas sa place ici, c'est qu'il a sa place en face, ou inversement. Pourquoi le Tana ne lui a pas fait la place là ou là, selon son point de vue réel? Si ça vaut Shtika, alors mets-le dans la Recha. Je comprends pourquoi je ne l'ai pas mis dans la Sefa, parce que ça vaut Shtika, ça ne vaut pas Kiyum. Alors mets-le dans la Recha. Non, je ne l'ai pas mis, parce que comme je ne l'ai pas mis dans la Sefa, je ne vais pas le mettre dans la Recha. Il faut comprendre ce truc-là. Le Ran essaye d'expliquer, mais après, il y a une complication dans le Gilyan HaShas. Tashma. Nadra ve'yarusa venit garsha venit arsa bobayom. Ce texte, on le connaît, c'est la Mishnah de Daf Ayin Alef. Amoud Aleph, notre Mishnah, elle a fait son vœu alors qu'elle était Arusa. Le Arus Rishon la divorce, et il y a un Arus Sheni qui débarque, qui donne la Kiddushin, tout ça, le beau Bayom, en une même journée. Afilou le Mea, même s'il y a plusieurs Arus qui se succèdent, chaque fois il y en a un qui divorce, il y en a un nouveau qui donne Kiddushin. Le din sera que Avia Ubala, Charon et Firin et Daria, c'est le père, conjointement avec le dernier Arus, qui fera le lafara. Qu'est-ce qu'on entend ici clairement? Que Shmamina Gerushin Keshtika Damo. Que Gerushin, c'est rester neutre. Deikea Kamalamo, parce que si tu dis que le choix de divorce, parce que je réalise que c'est ma dernière chance de faire une lafara, et si je n'ai pas joué la carte de lafara, c'est que je voulais la Akama. Si c'est comme ça que ça se traduit, alors Mimatine Ferraro Sacharon, Nidre Deuki Marus Rishon. Est-ce que le Harus Sheni, même avec le père, pourra-t-il se mesurer au Nedarim que le Rishon a déjà validé? C'est impensable. Donc forcément, d'après notre Mishnah, ça ne s'appelle pas Akama, ça s'appelle Shtika. C'est donc une preuve. Dit la Gemara, Rabema Eskinan, Beshelo Shama Harus Rishon. Mais du tout, le Harus Rishon n'avait pas du tout entendu le vœu. Et comme il ne l'a pas entendu, c'est pourquoi il n'y a pas de kiyum de sa part. Il a beau donner un get, il n'y a pas de hakama, même si des jours passent, ça ne s'appelle pas hakama. Donc, on parle que le gendre n'avait pas du tout connaissance du vœu. Très bien, mais ça nous ramène à un point de réflexion qu'on a déjà eu. Yachim, Ayiria, Bobayom, dans ce cas-là, pourquoi le Tana s'efforce de concentrer tous les événements d'une même journée? Elle était à Roussin, elle a fait son vœu. C'est arrivé aux oreilles du Harus, il a divorcé, il y a un autre Harus, lui aussi divorce, il y a un autre Harus, mais tout ça le même jour. Pourquoi on a besoin de concentrer tout ça sur le même jour? Rafelou la Kharmeya, Mimnami, même après 100 jours. Pourquoi on a besoin que ce soit le même jour? Parce que la Torah l'a dit, Vaya Beyom Shemoa Isha. Le jour où le mari entend, eh ben, ve faire là. Et sinon, ve kamun et darea. C'est le jour où on a eu la shmia du vœu que commence ce délai d'une journée. Or ici, si tu me dis que le genre n'a pas eu écho du vœu, qu'est-ce que j'en ai à faire que ces différents fiançailles s'échelonnent sur plusieurs jours? Il n'y a pas de problème. Le dernier Arus aura le pouvoir sur ce vœu Et on appliquera le din que quoi? Que le père et le dernier Arous, en date, feront la fara. Pourquoi la Mishnah ne peut pas parler de ça? Pourquoi il faut concentrer tout sur un même jour? Obligatoirement parce que le Arous avait entendu. Donc c'est faux ta réponse, le Arous n'a pas entendu. Qu'est-ce que tu veux déjouer la preuve en disant le Arous n'a pas entendu, donc au moment où il choisit de donner un guet, ça ne peut pas valoir. Kiyum, puisqu'il ne sait même pas qu'il y a un vœu. C'est pourquoi il n'y a pas de Kiyum de sa part. Mais non, c'est sûr qu'on parle qu'il avait entendu. Sinon, pourquoi il faut respecter le délai d'une journée? La Gemara, hein, il faut respecter le délai d'une journée par rapport à la Shmia, tu as raison, mais pas la Shmia du Arous, la Shmia du père. Keshelo Shama Arous, Veshamav. Tu as raison que c'est lié avec la Shmia, mais on n'a pas besoin de la Shmia des deux. S'il y avait la Shmia du père, et comme lui, il a entendu, si on tarde plus que la journée, c'est fini. Des Bobayomo des Matimifères. Avant de Mikan Vaylar, le Matimifère. C'est pourquoi il fallait Bobayom. Alors, bien sûr, ce point est sensible parce qu'on a déjà vu que Shmuel, il avait traduit dans la Mishnah que ce din, que Avia, que le Arous Acharon et Avia sont mes frères le Neder. C'est même lorsque c'était un Neder, Nedarim Sheniru Larous Rishon, c'est-à-dire que le Rishon avait entendu, et il avait possibilité d'effacer, il n'a pas effacé. Il a un successeur, le Arous Sheni va lui succéder, et il aura ce pouvoir. Et d'où il savait ça, Shmuel? Parce qu'il avait compris dans la Mishnah, où il avait reçu de ses maîtres, que dans la Mishnah, on parle bien, qu'il y avait Shmi'a, oui, du Arous. C'est ce qu'on appelle le Darim Shineru Larishon, concrètement. Et là, on dit peut-être le contraire. Alors, le Rav nous dira ici, dans la Sugya, que pour Shmuel, il n'y a pas de doute. La Mishnah, elle parle, lui, de la Shmi'a du Arous. Et forcément, la Ibaya qui est devant nous est tranchée. Forcément, ça veut dire que notre Mishnah a considéré que le Kirushin, ça vaut Shtika, ça vaut pas Kiyum, puisqu'on parle concrètement que le Arous avait entendu. Ah, la Gemara l'a fait une tria. Non, peut-être c'est le père qui a entendu, pas le Arous. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, quand elle est dans cette réflexion, est-ce que de la Mishnah c'est mouchach ou non, notre Ibaya? Mais de par l'enseignement de Shmuel plus haut, oui, il n'y aura pas deux voies possibles. Et au point que le Ran dira au nom du Rashba que notre Ibaya qui est insoluble ici dans la Sugya, en fait, on a un élément pour trancher, c'est Shmuel. On avait vu que Shmuel, il a une position claire sur la traduction de la Mishnah. Pourquoi le délai d'un jour? À cause de quelle Shmia? Non, pas la Shmia du père, la Shmia du Arous. C'est tout l'édifice de Shmuel du Daf précédent. Bah, du coup, ça donne que malgré la Shmia, le divorce n'est pas un Kiyum. Voilà comment certains Rishonim vont retenir. D'autres Rishonim diront que c'est une Bayad et l'Oifshita. Faudra voir comment ça s'accorde avec Shmuel, j'ai pas vu. Tashma, dernière tentative. Viens, écoute, une autre référence. Nadra Bobayom, Girsha Vechezira Bobayom. Elle a fait son vœu le jour, un jour, et le jour même, le mari l'a divorcée, et il a réépousé. En yachol et hafer, il ne pourra plus faire hafara. Ouh, vraisemblablement, c'est notre sujet, en toutes lettres. Shmamina Girushin ki akama damu. On voit bien que Girushin, ça vaut akama, puisqu'on est le jour même, alors pourquoi s'il la réépouse, il ne peut pas? Mais on est avec un Arous, qui est normalement mefer bakodmin. Il a un pouvoir sur les vœux antérieurs, si seulement il coopère avec le père. Et donc, pourquoi ici il ne peut plus? Ben certainement parce que les Girushin, ça vaut akama. Amré, on répondra et on repoussera. Achabi Nesua Skinan. Ici, on ne parle pas d'une Arousa, on parle d'une Nesua. Vayinutama. Et voilà la raison. Den Yachole Afer. Mishum Den Abal Mefer Bakodmin. Parce qu'un mari n'efface pas les vœux antérieurs au Nisu'in. Ici, mari au sens de Nisu'in. Il n'a pas de pouvoir sur les vœux antérieurs. Parce que, comme on l'a dit dans la Torah, Vim, Betisha Nadara. Si, une fois mariée, c'est sa Betisha, elle a fait le vœu. Alors, le mari peut effacer. Mais on a vu que le mari peut aussi, les Kodmin, ça c'est le Arous. Parce que le Arous, il a l'avantage qu'il n'est pas seul. Il coopère avec Av. Le Arous, il rentre en jeu. conjointement avec le Père, tous deux effacent. Alors là, ça se fait même sur Nedarim qui sont Kodmin antérieurs au Kiddushin. Mais Nisuin, non. Puisque le Père est mis hors jeu, c'est l'affaire du gendre à lui seul. Ah, le gendre, lui, la Torah ne lui a pas donné un pouvoir sur les vœux antérieurs au mariage. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Dès lors qu'il a divorcé, même qu'il la réépouse, mais puisqu'il a fait Nisuin, il n'y a plus le beau-père, il est tout seul, il ne peut pas en venir à bout puisque c'est Kodmin. C'est la réponse. Mishnah. Bon, alors, Laura nous dit qu'on peut traduire de deux manières ce sujet de Nisuin. Ou bien Nisuin, ça veut dire le premier mariage, ou bien Nisuin, ça veut dire le dernier mariage. Moi, j'ai traduit le dernier, c'est le plus simple. Si dans le dernier mariage, c'est des Nisuin, donc il est tout seul à être méfère, c'est pourquoi il ne peut pas être méfère, c'est des darim qui sont antérieurs au remariage. Mais le Ran envisage aussi que ce soit Nisuin Batechila. Premier mariage, ils étaient Nisuin. Et deuxième mariage, c'est Irusin. Et quand même, ça marche la réponse de la Gemara. Parce que dès qu'il a fait les Nisuin la première fois, il a mis hors jeu le père. On se rappelle que dès lors qu'une fille est Nesua veut dire Nisuin sous la Roupa, oublie le père. Elle a pris la porte de sortie une fois pour toutes. Et donc, le père n'a plus de pouvoir sur ce vœu. Et quand maintenant il va être Meares Ota une fois de plus, il n'y aura pas de partenariat avec le père, parce que le père est mis hors jeu, si bien que le gendre n'aura pas de pouvoir sur les Kodmin. Parce qu'habituellement, le gendre il peut les Kodmin parce qu'il est Shoutaf avec le père. Mais là, le père ne peut plus être adjoint. C'est pourquoi, dans ce cas aussi, on a raison de dire que il ne peut plus. Voilà. Donc, soit que le premier mariage était Nisuin, soit que le dernier mariage est Nisuin, c'est une raison pour justifier le sujet de la Braïta. Pourquoi après divorce, il ne peut plus? Mais donc, on n'a pas de preuve que divorce, ça vaut Hakama. Ça reste une Baïa de l'Okshita au niveau du développement de la Soumia. Mais comme j'ai dit après, c'est Machloket Rishonim. Si à travers Shmuel, on n'a pas une Pshituta, la Gemara n'est pas revenue sur ça en disant mais de Shmuel, on a une preuve. Parce que la Gemara, quand elle est dans cette démarche, elle est à la recherche de Mishnayot ou Braïtot. On sait que de Shmuel, on a un avis sur le sujet. On voulait des preuves de Mishnayot Braïtot. C'est les trois tachmas, trois tentatives avortées. Il n'y a pas de conclusion à partir de Mishnayot Braïtot. Maintenant, ça n'empêche que de Shmuel, on a notre preuve. C'est comme ça le Malard d'après le Ran, Rashba. Et d'après d'autres Rishonim, c'est différent. Mishnah. Derer Talmidei Chachamim Atchelo Haïta Bito Yotza Meetzlo. L'habitude des Talmidei Chachamim, avant que leur fille ne sorte une fois pour toutes de chez eux, ça veut dire que le père va plus avoir aucun droit, c'est-à-dire avant qu'elle devienne Nesua. Alors Omer là, le père il dit à sa fille, Kol Nedarim Shenadart Betorveti, tous les Nedarim éventuels que tu aurais fait dans ma maison, ça veut dire dans ta jeunesse, Harien Mufarin, je les déclare nuls. Parce que une fois qu'il y aura Nisuin, le père ne pourra plus rien. C'est la porte de sortie définitive. Et peut-être que le mari ne pourra pas non plus, puisque ce sera à Kodmin. Après Nisuin, le père il est hors jeu, le mari seul ne peut pas. Donc on est intelligent, on ne veut pas qu'elle traîne avec elle des deux. Ah, il y a encore un recours chez le Chacham, peut-être, chez la Tracham, mais bon, ça complique. C'est plus facile d'annuler les vœux. Par la Farat Nedarim du père. Et donc un père, Talmid Chacham, avait l'habitude de s'y prendre ainsi, Vechian Abal, et également pour un gendre, un Harous qui était Chacham, ben lui aussi, qui était Talmid Chacham, avait l'habitude d'anticiper. Comment? Ad Shelotikanes Lirshuto, avant qu'elle ne rentre dans son Rechout, c'est-à-dire qu'elle se marie, Omerla lui disait, Kon Nedarim Shenadart, Ad Shelotikanes Lirshuti. Tous les Nedarim que tu aurais pu faire avant que tu rentres dans ma maison, ça veut dire Avant. Non, pardon, ça voudrait dire même avant les Kiddushin. Oui, avant que tu sois Mekoudeshet. Avant que j'aie un pouvoir sur toi, même partiel, c'est-à-dire les Kiddushin. Aren Mufarin, puisque lui, il aimait faire même Bakodmin. Aren Mufarin. C'est un peu bizarre. Pourquoi il a limité aux Kiddushin qui sont avant. Pardon, aux Nedarim qui sont avant les Kiddushin? Et si on traduit. Ah, Tchelotikam, Silirshutit, ça veut dire les Nedarim que tu aurais fait avant Nisuin. C'est ben, mettre l'intention. D'après certains, il y a certains qui ont la version ici, Misharastir, Ad, Shelotikan, Silirshuti. Ça depuis les fiançailles jusqu'au Nisuin. Voir pourquoi il n'inclut pas les vœux qui sont antérieurs aux fiançailles, puisqu'il a un pouvoir dessus. Faut voir d'après cette version. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont lu ici, Achelotikan, Silirshuti, dans le sens de Nisuin, comme j'ai dit. Donc retenons, quand Nedarim Shinadar, Achelotikan, Silirshuti, tous les Nedarim t'auraient fait avant de procéder à l'onisouïn, que là j'aurais plus de pouvoir sur ces vœux, eh bien je les déclare nuls. Maintenant, Ariane Moufarine, Michel. Voilà, je les déclare nuls. Michetti, chez Michetti Kanes Lirshuto. Pourquoi? Parce que si elle est désormais chez lui, c'est-à-dire Nessoua, elle n'a rien à faire. Le père est mis hors jeu et le gendre ne peut plus s'attaquer au Nedarim antérieur au Kiddushin, antérieur au mariage. Et donc c'est pourquoi il a besoin de s'y prendre ainsi, c'est ce qu'on dit, qu'un mari, sous-entendu Talmud Racham, c'est ça le mot Vechen, idem pour un mari, en position de Talmud Racham, lui aussi avait l'habitude de faire ça, parce que après, ce sera trop tard, c'est ce que la Mishnah termine. Voilà. Baé Rabbi Bar Chama. Alors on va engager une réflexion sur un sujet qui va être directement lié à la Mishnah. Rabbi Bar Chama soulève la question Baal Maush Yafer Velo Shmiya. Est-ce que le Baal, il peut faire sa Afarat Nedarim sans avoir entendu le vœu de son épouse, de la fiancée? Veshama Isha Davkaou, Olav Davkaou. La Torah, elle a dit Veshama Isha, son mari a appris le vœu, il a entendu. Est-ce que ça veut dire Dafka, sinon il ne peut pas faire d'Afara? Ou bien même s'il n'a pas entendu, je lave Dafka. La Torah n'est pas pointilleuse comme si ce serait une condition. Ah, comment il va faire une Afarat Nedarim s'il n'a pas entendu le vœu? Misafek, comme ça ils disent tous les Rishonim. Un mari, par acquis de conscience, il veut prendre une précaution et dit tout Neder que t'aurais fait, j'annule. Sans connaître l'existence de tel ou tel vœu. Misafek. Ah, la Torah l'a dit, c'est arrivé à son oreille. Lavdavka. Peut-être que c'est Lavdavka. Pourquoi ce serait une condition? Ou bien la Torah l'a dit, c'est Davka. Ça, c'est le Safek. Alors, bien sûr, le Safek ne porte pas sur la chmia du vœu lui-même. Ça, on est bien d'accord que jamais faudrait exiger que le mari ait entendu la fille faire le vœu. Il faut que ce soit arrivé à son oreille, qu'on l'ait informé. Elle lui dit plus tard, j'ai fait tel vœu il y a 2 semaines. Mais on n'a pas besoin qu'il l'entende le vœu formulé de la bouche de elle. Ça, c'est sûr que ça ne fait pas partie de la Shéla de la Gemara. Tous les Rishonim l'évitent de manière implicite, toute naturelle. C'est sûr que la question, c'est ce qu'il on a besoin que ça arrive à son oreille un jour, ou même sans, il peut faire la Fara Misafek. Mais qu'il entend le vœu lui-même, c'est sûr que ce n'est pas besoin, parce que regardez dans le texte, comment la Torah elle nous dit. Il suffit que un jour il entende le vœu qu'elle a fait sous-entendu aujourd'hui, qu'il pourra lui effacer. Il n'a pas besoin d'entendre le vœu lui-même. Il a besoin d'avoir eu, tout au plus, il a besoin d'avoir eu l'information. Elle a fait un vœu. C'est tout. Donc ça m'a l'air évident. Et d'ailleurs, dans toute la Sugya, on voit que on n'a pas besoin qu'il entende le vœu lui-même. Donc, la question, elle est, est-ce qu'on a besoin qu'il entende l'information qu'elle a fait un vœu pour pouvoir procéder à la fara ou non? Dans la Torah, ça présentait que oui, mais est-ce que c'est une condition ou lav dafka? Et alors, on pourrait faire une fara même misafek. Tous les rishonim précisent ici que ce safek, il n'est pas uniquement pour le mari. Il est pour le Harous ou pour le Nasoui ou pour le Av? Pourquoi il nous avise? Parce qu'on va voir trois tachemas sur le sujet. Et un tachema, c'est au sujet du père. Un, c'est au sujet du Harous. Et un, c'est au sujet du mari Nasoui. C'est que la question, elle porte sur les trois. Si tu veux te référer à telle ou telle référence, alors que c'est que un des trois sujets, c'est que la Shela porte sur les trois. Et à juste titre, parce que dans les trois, c'est à chaque fois la même présentation dans la Torah. À chaque fois, on dit Veshama. Veshama, Vefer. Veu, Veyabeyom, Shemoa, Isha. Ou bien Veshama, je vais vous retrouver le pasouk ici. Veshama, Viat Nidra. Pour le père. Pour le fiancé, il y a écrit Veshama, Isha, Beyom, Shomo, Vecherishla. Le jour où il a appris, il a entendu son mari, et ce jour même, il se tait. Le jour où il apprend à lever, il se tait. Vekamun et Daria. Et si Veim, Beyom, Shemoa, Isha, Yani, Ota, mais si Vefer et Nidra, mais s'il a choisi d'effacer le vœu, le jour où il a entendu, où il a appris. Donc voilà qu'on parle ici une fois de plus de Veshama, Isha, et la même chose aussi pour Veim, Bet, Isha, Nadara, c'est après Nisuin. Donc, est-ce que ce Veshama Isha, ce Veshama Via, c'est Davka ou Lavdavka? La question est posée à Marava Tashma. Viens, écoute. Il se réfère à notre Mishnah directement. Derer Talmid Rachamim Atzelo Yatzad Bito Metzlo Omerla Kol Nedarim Shenadar Betor Beti. Un père Talmid Racham, avant d'accompagner sa fille à la Choupa, il lui dira: tous les Nedarim que tu as pu faire dans ta jeunesse, c'est-à-dire quand tu étais sous ma tutelle exclusive, Aren Moufarin, te sont effacés. Pas l'Avdavka tutelle exclusive, c'est même ce qu'elle a fait avant, pendant la période Hérosine, puisque le père il a encore un pouvoir sur ses vœux, conjointement avec le fiancé qui lui aussi va faire sa Afara, comme on poursuit dans la Mishnah. Il y aura ce genre de Talmud Racham qui fera sa part de Afara. Donc on peut inclure dans la Afara du père tous les Nédarim de sa jeunesse, bien sûr, dès lors qu'elle est à même de faire un vœu, au moins 11 ans, et jusqu'à Nisui, jusqu'au jour présent, c'est-à-dire avant la Choupa. Aren Mofarin, Ve'alo Shaman, pourtant il n'a pas entendu, le père n'est même pas au courant d'éventuels Nédarim, il parle de manière globale, tout vœu éventuel que tu aurais fait, je le déclare nul. Voilà, ça veut bien dire qu'on peut faire une afara sans avoir eu écho d'un vœu. Et donc, Veshama Isha, Lavdavka, Veshama Avia, Lavdavka. Et si j'ai une preuve pour Avia, c'est une preuve aussi pour Bala, parce que, comme on a dit, c'est à chaque fois la même question. Est-ce que Veshama Avia ou Veshama Isha que la Torah raconte, c'est le Sipur Dvarim logique? Comment il va faire une afara? Parce qu'il a eu écho du vœu en général. Mais Lavdavka, s'il veut faire par anticipation, ou Misafek qui dit si éventuellement tu avais des vœux, je te les annule, ça peut marcher. C'est ce qu'on voit ici. La Gemara repousse la preuve. Lechi Shama, ou Demifer. Il aimait faire pour lorsqu'il entendra. Ça veut dire, quand il apprendra qu'elle a fait tel ou tel vœu, alors il renouvellera la Afara. Imken, Kilo Shama, la malele memar. Ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Il n'a rien fait. Ça ne sert à rien. Un père, Talmud Chacham, il fait quoi? Une procédure qui est nulle, puisqu'il va devoir renouveler sa Afara lorsqu'il apprendra. Sa fille lui dira, c'est vrai, j'ai fait tel vœu, tel vœu, tel vœu. Ah, t'as fait ces trois vœux? Allez, je les efface. Mais il faut qu'il ait appris les vœux qu'elle a fait, qu'il ait entendu. Ben dans ce cas-là, à quoi ça sert? Ce préalable ici dans la Mishnah, ça ne sert à rien. C'est une Afara qui est fictive. Ah, Kamash Malam. Voilà ce que la Mishnah veut nous enseigner, que c'est l'habitude d'un Talmud Chacham d'être à la recherche. Il fait le pas vers sa fille pour susciter son intérêt pour la Afarat Nedarim. Il éveille en elle un intérêt pour sauver la Afarat Nedarim avant que ce soit trop tard. Alors il dit, je me rends disponible pour effacer tout éventuel vœu que tu aurais fait. C'est ça finalement qu'il est en train de lui dire. Et il l'invite à réfléchir et à ressasser le passé. Est-ce qu'il n'y avait pas un vœu? Ah oui, papa, je me rappelle, j'ai fait tel vœu. Et puis l'autre jour, tel vœu. Et encore celui-là. Et le père dit, ah ben d'accord, maintenant tu m'as appris 3 vœux, je les efface. Mais sans réitérer la hafara, c'est sûr que ce qu'il a fait en amont, ça vaut rien. Enfin, c'est sûr, on peut suggérer, on peut supposer. Et donc, de la Mishnah, il n'y a pas nécessairement une preuve incontournable que le père pouvait faire la hafara même sans connaître l'existence des vœux. Ok, de la Récha, on n'a pas de preuve. Alors, on se penche sur la Sefa, Tashma Misefa. Viens, écoute. Et on se réfère à la Sefa de notre même Mishnah, Vechen Abal. La même chose, s'il y a un gendre qui est Talmid Chacham. Atchelotikanes Birsuto, Omer. Il lui disait avant qu'elle arrive à la Choupa. Hein, qu'est-ce qu'il lui disait? Alors, la Gemara l'a abrégé. Dans la marge, ils l'ont rajouté. Mais c'est le texte de notre Mishnah. Il lui dit Kon Edarim. Chez Nadart, Atchelotikanti, Lirshuti, Arred Moufarin, tous les vœux que tu as pu faire avant la choupa, je te les efface. Tiens, mais le mari n'est même pas au courant de tous ces vœux éventuels qu'il mentionne globalement. Ça veut dire qu'on peut faire une afara même sans avoir entendu. Il ne connaît pas ses vœux. C'est la même déduction. Dans la Récha, on a repoussé. Est-ce qu'ici on a une solution? Bayachanami, dit la Gemara. Ici aussi, tu peux répondre de la même manière. Deamarla. Pardon, Achanami, Lechishama. Achanami, Lechishama. Je ne lis pas comme la Gemara parce que je suis avec la version 1 du Ran. Et la version 1 du Ran, c'est que la réponse ici, elle est copier-coller. C'est la même réponse qu'on a donnée plus haut pour le père, qu'on redit pour le gendre. Ici, et d'après cette version, c'est juste de dire « Achanami » ici aussi, puisque c'est la même réponse. C'est quoi l'Echi Shama? Pas des Amarla, l'Echi Shama, non. L'Echi Shama, quand il entendra, quand le gendre apprendra l'existence de vœux de sa fiancée, il réitérera la Afara. Bien sûr, avant d'arriver à la Choupa, forcément. Alors, à quoi ça sert? Bémet, à quoi ça sert dans ce cas-là? Bémet, la question n'est pas soulevée dans notre version, mais ils l'ont ramené. Et le Ran, il a justement ici cet élément final qu'on avait dans le développement précédent. À quoi ça rime de faire une afara qui n'aboutit pas? Ça aboutit à rien. Il faudra la renouveler quand il apprendra l'existence des Nédarim. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est un coup de semonce. Ça sert à quelque chose. Comme on nous a dit... Et Akamashmalan, je lis dans le Ran. La première grande ligne dans le Ran, c'est là où il a mis en abrégé la version 1 de ce passage. Hanami Lechishama. Ici aussi, la réponse sera Lechishama. Quand il entendra le gendre, il renouvellera la Hafara. Alors à quoi ça sert? Eh bien, Akamashmalan, de Ucha de Torah Merabanan, l'a adoré. C'est ce que la Mishnah nous apprend, comme on a dit pour le père. Qu'un mari, Talmid Chacham, comme un père, Talmid Chacham, cherche et fait une démarche pour aller à la recherche des vœux, pour susciter chez elle un intérêt pour une afara. Ça va la faire réfléchir. Tiens, est-ce que j'ai... Ah oui, elle va dire à son rosé, j'ai fait tel vœu. Ah oui, d'accord, ben, je t'efface. Mais il va devoir renouveler la afara une fois qu'il aura pris connaissance des vœux. Donc ça, ce serait la réponse pour la Sefa, comme pour la Récha, selon la version 1 du Ran. Mais le Ran présente une autre version qui est la nôtre. Que la Gemara réponde à Marla l'Echishamana. Et là, il y a un chidouche très grand. Si je lis comme ça, déjà, il faut enlever le mot Achanami. Parce que la réponse d'ici, ce n'est pas la même que précédemment. Donc on ne va pas dire Achanami. On dira plutôt Achan. Ici, on parle que le gendre avait dit, le Harus, il a dit, lorsque j'entendrai, ça veut dire, je fais maintenant la Hafara d'avance pour qu'elle prenne effet l'Echishamana. Lorsque j'aurai appris l'existence d'un vœu, ça va prendre effet automatique, sans réitérer la Hafara. Et c'est possible. C'est un grand ridouche, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que si on n'a pas pu dire ça plus haut vis-à-vis du Père, ici on peut le dire. Vis-à-vis du Père, on ne pouvait pas le dire. Que le Père il dit à sa fille, quand j'apprendrai, hein, alors ça prendra effet. Non, parce que si c'est après les Nisouin, que le Père il a perdu son pouvoir, ça ne prendra pas effet. On ne peut pas maintenant enclencher une afara qui prendra effet à une échéance où on n'a plus de pouvoir.
Si c'est avant.
Oui, mais il est la veille du mariage, le père. On est la veille du mariage, ah, une minute avant qu'elle sorte de son rechout, qu'elle soit nessoua. Comme ça, les Rishonim ont traduit le sujet de la Mishnah. Tosfot nous dit, c'est quoi, avant qu'elle sorte mirchuto, ça veut dire kodem shetinase. Une minute après, c'est trop tard. Et donc c'est pourquoi le père, il ne peut pas sauver l'affaire comme ça. Par contre, le gendre, même après Nisouin, c'est pas trop tard. Que veut dire qu'après Nisouin, il a plus de pouvoir sur les Nédarim qui sont Kodmin antérieurs au Nisouin? C'est quand il a rien fait jusque-là. Il veut entamer l'affaire après. Mais après, c'est trop tard parce que le père est déjà hors jeu et lui seul n'a pas de pouvoir sur les Kodmin. Ok. Mais là, le père, il a fait sa part de Afara sur ses mêmes vœux. Et le gendre, il vient en complément de cette Afara. Et là, il peut enclencher d'avance, maintenant, avant la Nisouin, cette affaire-là, pour qu'elle prenne effet, l'Ikshayishma, lorsque j'entendrai, alors il y aura la affaire-là. Et cette affaire-là pourra s'appliquer parce que, vis-à-vis de lui, cette changement de situation n'est pas compromettant. C'est pas le Nisouin en tant que tel qui compromet vis-à-vis du gendre. Comment ça compromet une chance de affaire-là, la Nisouin? C'est parce que le père est mis hors jeu. Alors il a plus de partenaire pour venir à bout d'un Nedarim Kodmin. Mais là, j'ai plus problème parce que le père, il a déjà fait sa part de Afara. Et lui, c'est encore mieux qu'à l'Enesua, c'est pas plus mal. Et donc, il peut d'avance enclencher la Afara qui prendra effet l'Ikshayishma. Une traduction dans le Ran. Ou mieux que ça, il dit, peut-être que l'Ikshayishma, ça validera rétroactivement la Afara depuis aujourd'hui, avant la Choupa. Ces deux déclinaisons. Mais en tout cas, le Yosod, d'après cette version 2, il s'agit d'une afara qui va prendre effet, mais qu'on a enclenché d'avance, avant la Shmia. Ça, c'est nouveau. Ça, on ne pouvait pas dire avec le père plus haut. Ça, on le dit pour le gendre dans la deuxième version. Deux versions possibles pour cette réponse. Ou bien c'est le copier-coller de la réponse plus haut, ou bien c'est une réponse différente. Et là, on dira, « Déamarla, il lui a dit à elle, « L'Ikshi Shamana, quand j'entendrai ?» Je te fais maintenant la afara pour « quand j'entendrai ?» J'aurais appris, il y a la condition de Shmia, ça s'enclenche, parce que je l'ai déjà enclenché avant. C'est ce qu'il cherche à faire. D'après ça, c'est pas juste que... à quoi ça sert? Ben, il veut susciter un intérêt pour la Phara, le faire ressasser. Non, c'est beaucoup mieux. Il a sauvé l'affaire d'avance. Il a trouvé le remède, la parade, voilà, il a mis une Phara en route. Elle va se concrétiser, le jour où il y aura la chemise. Mais il a déjà mis en route. Là, avant le mariage, ils n'ont pas le temps de ressasser un an et demi, depuis qu'elle a 11 ans jusqu'à... ils n'ont pas le temps de ressasser tout ça. Quels sont les vœux qu'elle aurait pu faire? Calmement, on en reparlera plus tard. Vite fait, qu'est-ce qu'il peut sauver? Ben, il peut sauver. Je te fais maintenant la fara qui prendra effet. Quand j'aurai entendu, tu me donneras la liste en son temps, dans quelques jours, au calme. Maintenant, je déclare déjà nul d'avance. Est-ce que ça prend effet le jour où il entend ou bien ce jour-là rétroactivement? Deux déclinaisons dans le RAN. Tashma. Donc on n'a pas de preuve de la Recha ni de la Sefa de notre Mishnah. On se penche sur une autre référence. Omer Lishto Konedarim Shetadouri. Ah, ce serait une Mishnah plus loin dans le Perek. Atchavo Mimakom Peluni. Le mari il dit à sa femme, je vais être absent, donc jusqu'à mon retour de voyage. Tous les vœux éventuels que tu auras fait, Aren, Kayamin, je les valide. Donc méfie-toi, compte pas sur la Afara, il y a possibilité de faire Afara. Si au retour de voyage, la femme a dit à son mari, tu sais, j'ai fait tel vœu, c'est Beyom Shemo Aisha, il peut tout de suite être méfaire. Il l'a mis en garde, attention, je ne joue pas à faire des Nedarim. Je valide d'avance tout vœu que tu auras fait en mon absence. Loa Markeloum, il n'a strictement rien dit. Parce que ce neder il est enoba olam, il n'existe pas encore, elle ne l'a pas encore fait. Alors qu'est-ce que tu veux consolider? Kiyum, ça veut dire je consolide un vœu. Le vœu, il est là. Je le fixe. Je le fige. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus l'effacer. Ben, il n'est pas là. Il n'est pas encore formulé. Qu'est-ce que tu veux fixer, figer? Il n'y a rien à figer. Et donc, le kiyum est nul. OK. Par contre, s'il voulait faire une afara d'avance, et il lui dit, tous les nedarim que tu pourrais faire en mon absence, aren mufarin, je les déclare comme nuls. Alors là, c'est machloket. Rabbi Eliezer Omer Moufar. Et Chachamim, ils vont dire que non. Et le fond de la machloket, comme c'est entendu dans la Mishnah, là-bas, il y a une argumentation. Et dans l'argumentation, on entend que Chachamim, s'il se démarque, c'est parce qu'il pense que le vœu sur lequel tu ne peux pas être mekayem, tu ne peux pas être mefer. Or, comme on vient de le dire, tu ne peux pas être mekayem d'avance, un vœu qui n'existe pas. C'est pourquoi tu ne peux pas non plus faire la hafara. Rabbi Eliezer, il a une autre logique. Il dit que il tient pas cette approche parce que pour lui, il n'y a pas cette exigence entendue dans le pasuk, dans les psukim. Et donc, chaque chose à part, les kayem, c'est une chose, c'est pas possible techniquement, d'accord. Mais la hafara, c'est encore mieux maintenant que après que le vœu est fait. La svara, c'est que si déjà la Torah donne un pouvoir au mari de faire sauter un vœu qui est déjà installé, qui est déjà en vigueur, elle a fait le vœu, il est adjugé, il est déjà en vigueur ce vœu. Il est contraignant. Le mari peut le déloger, le faire sauter. Alors, a fortiori, il peut aussi mettre en route une afara qui anticipe et qui empêche le vœu de prendre. Elle aura beau dire ce vœu, il ne prendra pas. C'est plus facile encore de faire une afara d'avance. Et c'est pourquoi Rabbi Eliezer se dit, si la Torah elle a parlé d'une afara après qu'on a entendu le vœu, a fortiori, on peut faire une afara avant que le vœu ne soit fait. Mais au passage, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on peut faire une afara alors qu'on n'a pas entendu le vœu. Comment tu l'as entendu s'il n'est pas encore été émis? Donc on a une preuve ici dans cette référence que Veshama Isha, c'est l'avdavka. C'est ce que la Gemara demande. Veshama. Ici aussi, on peut traduire le sujet de Rabbi Eliezer. Je précise, excusez-moi, que même Rabbanan, s'ils se sont démarqués de Rabbi Eliezer, c'est pour un élément accessoire. C'est parce que dans la juxtaposition de la Torah, Kiyum, Hafara, on a comme ressenti qu'il y a une corrélation. On t'a parlé de Hafara dans la mesure où il est question de Kiyum. Mais à ce stade, que le vœu n'est pas formulé, on ne peut pas faire de kiyum. Alors, on ne peut pas faire afara non plus. Mais ça, c'est un élément. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette indication dans la Torah, Rabbanan Misvara aurait adhéré pleinement à ce qu'a dit Rabbi Eliezer. Que malgré que le vœu n'est pas encore formulé, c'est encore plus aisé de sa part d'effacer le vœu avant qu'il arrive qu'une fois qu'il est là. Mais pourtant, avant qu'il arrive, il n'y a pas eu de shmia. Donc, de Rabbi Eliezer ou même de Rabbanan, j'entends cette preuve que sans shmiya aucune, on peut déjà faire un vœu, une afara, et que Veshamaïcha, c'est l'abdafra. C'est la preuve qu'on tire de cette Mishnah. Si la Gemara, non, on peut répondre que, Achanami ici aussi, Yamar Lechi Shamana, il fait l'afara, maintenant, il l'enclenche, mais pour lorsque j'entendrai. Comme ça, il lui dit. Je fais afara d'avance pour les vœux que tu ferais en mon absence quand j'en aurai l'information. Bien sûr qu'il y a besoin de shmia, et elle viendra à mon retour. Tu me raconteras, t'as fait ceci, ça, mais sache que déjà maintenant, j'ai enclenché une afara. Là, c'est les nedarim. Dans la période du mariage, ils sont nesouim. Il n'y a pas de perte de droits. Le mari ne perd pas ses droits. C'est l'histoire. Parce qu'il est à présent, il est absent. Et au retour du voyage, c'est encore sa femme. Il a encore son droit sur ses nedarim. Donc, il peut enclencher une afara. Anticiper avant même qu'il y ait la shmia. Mieux, selon Rabbi Eliezer, avant même que le vœu a été formulé. Et ça prendra effet quand? L'Echi Shamana, lorsque j'entendrai. Là aussi, il y a deux versions. Comme ça, on voit dans le RAN, on pouvait aussi envisager la réponse plus simple de la version 1 plus haut, à savoir « Dehamar lekishama » Ce qu'il a voulu, ça veut dire qu'il va devoir le dire quand il entendra. Il va renouveler la hafara. À son retour, il va entendre, il va devoir refaire la hafara. Ça peut être une solution, une réponse? Maintenant, la Gemara demande... Alors, dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit maintenant? Si après, quand il revient de voyage, il va devoir refaire la hafara, alors à quoi ça sert? L'Echishama, l'Iferla, quand il entendra le vœu, il lui fera en son temps la hafara calmement. Pourquoi il doit anticiper? Réponse. Kasavar dilma mitridna ishata. Il se dit, peut-être que quand je reviens de voyage, je serai taroud ce jour-là. À ce moment-là, je serai taroud. Ah, ok, on est pris, il y a tellement de choses le jour où on revient, d'accord? Et il ne pensera pas, même si elle lui parle d'un éder, il ne pensera pas nécessairement à faire la hafara. Et si la journée, elle passe, imagine, il arrive à, juste un peu avant la fin de la journée, elle passe, c'est fini, c'est plus Beyom chez moi. Et il a peur de ça. Alors, par crainte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'avance cette formule, que tous les nédarim que tu ferais en mon absence, alors je les déclare comme nuls d'avance, que dès que je vais les entendre, tout seul la hafara est enclenchée. Puisque j'ai déjà mis en route une telle hafara, selon Rabbi Eliezer, avant que le néder se fasse, on peut déjà enclencher une hafara, mais qui prendra effet. Ah, il y a une condition de shmia, ok, le jour où j'aurai entendu. La hafara se concrétisera à ce moment-là, tout seul. Et c'était une précaution de sa part, parce qu'il avait peur de ne pas y penser à temps le jour de son retour. Donc on a réussi à repousser encore cette preuve. Tashma, viens, écoute, une autre référence. À Omer, l'apotropos, celui qui dit un tuteur. Tuteur ici, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a nommé responsable sur les vœux de sa femme. Lui, il va s'absenter et il veut que quelqu'un qui l'a désigné s'occupe d'effacer les vœux de sa femme en son nom. Shlichut, au nom du mari. Tous les vœux que ma femme ferait éventuellement d'aujourd'hui que je quitte jusqu'à mon retour de voyage, Hafer, tu lui effaces. Ça veut dire, en mon nom, tu fais Hafara de ma part. C'est que le mari qui a un pouvoir. Donc ça s'appelle qu'il veut faire clairement un chaliar pour Hafarat Nedarim. Veferla. Et il a fait. Chaque fois qu'elle faisait un vœu, le chaliar disait Moufarlach, Moufarlach. Yachol yu Moufarin, je peux croire que ça marche, Talmud Lomar, Isha yekimenu, ve Isha yeferenu. C'est qui est habilité en la matière, que ce soit les kayem ou les affaires? C'est Isha exclusivement. Le Ran précise, on aurait pu dire Isha yekimenu, viferenu. Son mari lui fera ou akama ou afara. Pourquoi répétition Isha, Isha deux fois, son mari? Pour dire c'est son mari spécifiquement et exclusivement, personne d'autre. Divrei Rabbi Yoshia. Amalo Rabbi Yonatan, Matzinu bekol haTorah kula, mais dans toute la Torah on trouve le principe que Shlucho shel Adam kemoto. C'est un principe qui est établi dans d'autres sugyot. Et donc si la Torah elle a établi cette règle que je mandate quelqu'un pour faire quelque chose que je pouvais moi faire, ce quelqu'un le fera à ma place, ça compte pour moi. Et donc, le mari, il a habilité à faire une hafara des darim, alors le chaliach le fera à sa place. Pourquoi pas? C'est la règle générale. Mais Rabbi Yeshua n'admet pas, parce qu'il a déjà retenu des psukim, une mashmaout que non, comme si la Torah l'a refusé le klal de shlichut ici, dans hafarat nedarim. C'est vrai, il y a une règle générale, et il y a aussi des exceptions à la règle. Ici, c'est une exception, il n'y a pas de shlichut, selon Rabbi Yeshua. Mais la Gemara nous dit, Rabbi Yoshia, si ce n'est cet indice du passou, qu'il aurait été d'accord avec Rabbi Yonatan. La fulu Rabbi Yoshia, le kamar, et la mishum n'exerata katovu, que Ishaï, qui menou, Ishaï, et ferenou, c'est que au mari d'intervenir. Mais si ce n'est cette indication de la Torah, aval de kula almash, toro shadam kemoto, on aurait pu parler de shlichut, même d'après Rabbi Yoshia, si ce n'est l'indication de la Torah, comme quoi le chaliar, en l'absence du mari, va procéder à la hafara de chaque vœu qu'elle va émettre. Mais pourtant, il n'y a pas eu de shmia, le mari est en voyage. Alors une semaine après le départ, elle a fait un vœu, paf, il efface. Comment le chaliar peut effacer? Mais même le mari ne peut que s'il a entendu. Et le mari n'a pas entendu, il ne pourrait pas. Alors comment le chaliar, comment il va faire? Cette question, les chaora, on aurait pu se dire, mais le chaliach lui-même, il a entendu. Ça s'appelle une shmia, puisqu'il est chaliar. Il est chaliar pour effacer le vœu, donc il représente le mari sur toute l'affaire. Si lui, il entend et il fait la hafara, c'est comme si le mari l'a entendu, il a fait la hafara, donc il n'y a pas un défaut de shmia. Pourquoi la Gemara dit un défaut de shmia? Parce que ce n'est pas arrivé aux oreilles du mari. Mais le représentant légal du mari, si je tiens de shlichut, il a lui entendu. Alors une réponse très facile dans les Rishonim ici, il y a plusieurs réponses, mais une réponse facile, c'est présent dans le Tosfot au nom du Kuntras, et c'est présent dans le Rosh aussi. Il n'y a pas de shlichut, c'est un essor bien connu, il n'y a pas de shlichut sur Midé de Mimela. Quelque chose qui se fait tout seul. Shmia, tu le subis, ce n'est pas une action. Shlichut, c'est sur une action. Afrashat Truma, la Torah dit, Atem Gamatem, Yashluchachem, ça marche comme vous-même. Et dans d'autres sujets, dans Get aussi, la Torah l'a indiqué que Yashlichut, à chaque fois qu'il y a une action, une opération à faire, à réaliser, alors il y a un klal, sauf exception, qu'on peut faire par Shlichut, par délégation. Mais lorsque c'est quelque chose de subi, tu ne fais rien, entendre, c'est passif. Il n'y a pas de Shlichut, tu ne peux pas dire, c'est le mari qui a entendu. Le mari n'a pas entendu. Le chaliar, sa chemia ne compte pas. Ça a fara, oui, c'est une action, c'est une déclaration. Mais la chemia, non. Donc s'il y a un défaut de chemia pour le mari, il y a un défaut de chemia pour le chaliar. Comment ça a fara peut-elle marcher? Alors Rabbi Yonatan, il dit, c'est bon. Shlucho shel adam kemoto. Et Rabbi Yosha dit, non, parce que pour des raisons accessoires, parce que la Torah indiquait qu'il n'y a pas de shlichut dans ce sujet. Mais autrement, techniquement, ça pourrait se faire. À ses yeux, ce serait bien pensé de dire comme Rabbi Yonatan. Sauf que la Torah l'a refusé. Mais au final, on voit que pour l'un et l'autre, une afara peut être émise, même sans avoir entendu le vœu. La Gemara, ce n'est pas une preuve. Akhanami, ici aussi, d'Amarle, l'Echishamana. Il a dit, quand j'entendrai, ou d'Amarla, il lui a dit, non, pardon, le Meshaleach, le mari, il dit au Shaliach, quand j'entendrai, c'est-à-dire, Haferla, quand j'entendrai. Tu fais la fara même en mon absence, mais qui comptera l'ekshe eshma pour lorsque je vais apprendre l'existence de tel ou tel vœu. Ça prendra effet alors. Ça veut dire mettre en route une fara avant même d'avoir appris le vœu, ou de l'avoir qu'il soit existant, Bichlal. Clairement, cette braïta, elle résonne avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui dit qu'on peut faire une fara même avant que le vœu ne soit émis. Pourquoi? Ça s'est expliqué dans une Gemara ailleurs, parce que si on n'est pas à même de faire la fara à l'avance, comment il nomme un chaliar sur quelque chose sur lequel il n'a pas de pouvoir? À ce stade, le mari n'a aucun pouvoir. S'il ne peut pas enclencher une fara avant que le vœu ne soit émis, là, avant le départ, il ne peut pas déléguer ce pouvoir à un chaliar. C'est un principe qu'on ne peut pas être mémané chaliar sur quelque chose dans lequel on est comme impuissant. T'es pas capable, comment tu délègues quelqu'un à ta place? Ça marche pas, je t'écoute. Et donc, on est, selon l'optique de Rabbi Eliezer, qu'il pouvait lui-même enclencher une afara d'avance, mais qui prendra effet l'ikshe ishma, comme on a vu avant, pour Rabbi Eliezer. Eh bien, la même chose, il dit à son chaliar, je serai pas là, tu t'occupes. Tu t'occupes à chaque fois qu'il y a un éder, mais cette afara, en décalé, en différé, l'ikshe ishma, lorsque j'entendrai, elle se concrétisera. Et précise Loran que le apoutropous, à son tour, il doit relayer cette phrase. À chaque fois, il va dire à la femme, le neder que tu as fait, il est moufar, l'ikshe ishma à Baal. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut de shmia, sinon ça ne marche pas. Possiblement, on veut convenir que la fara ne se fera que s'il y a eu shmia. Et même ici, ça s'appelle qu'il y a eu shmia parce que c'était l'intention de décaler, de différer la chalout de la hafara, l'ikshe ishma. Demande à Gmar l'Ikshéchama à l'Iferla. Où? Mais il n'a qu'à faire lui-même. Pourquoi il a besoin d'un chaliar? À son retour, puisque la fara ne peut se faire qu'avec la chmia du mari, ben, quand il entendra qu'elle a fait tel et tel vœu en son absence, il dira en deux mots, Moufarlar, pourquoi il doit rentrer dans toute cette complication si c'est vraiment le cas? Réponse. Savar Dilma Mikritna. Il se dit peut-être qu'à mon retour, j'aurai d'autres choses à penser. Je n'aurai pas la présence d'esprit de faire tout de suite la fara, le jour même, avant que ce soit passé ce Beyom Shemoa Isha. Et donc, j'ai peur, j'anticipe. Je demande au chaliar d'enclencher d'avance une fara qui prendra effet toute seule le jour où j'aurai entendu le vœu. Donc on n'a pas de pshituta sur cette shéla. Est-ce que Veshama c'est Dafka ou Lavdafka? On reste avec un doute. Le Ra nous annonce que de la sugya suivante, ça s'entend comme un tzad que lui on verra sa maison attachée.
D'accord que c'est Khal et ma frère.
Ça, c'est une subtilité qui n'est pas évidente. Qu'il y a dans le Ran les deux tzadim.
Dans le deuxième tzad, je crois.